RCF. Les rois de ce monde ont toujours eu l'art de parader pour démontrer leur force. À cheval, sur un char, en carrosse ou en limousine, tout vrai chef se doit de frapper les esprits en défilant devant ses sujets. Comparé à cette démonstration de prestige, le pauvre attelage qui mène Jésus à Jérusalem est dérisoire. Il s'agit d'un petit âne qui porte celui qui bientôt sera crucifié. Lui, le seul vrai roi, entre dans la ville sainte en toute humilité pour recevoir l'hommage de ceux qui l'ont reconnu. Cette scène est racontée par l'évangéliste Luc et nous allons nous y attarder cette semaine en compagnie de Jacques Neuviart. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes bibliste, prêtre assomptionniste. Alors nous écoutons le texte. C'est au chapitre 19, versets 28 à 40.
En ce temps-là, Jésus partit en avant pour monter à Jérusalem. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie, près de l'endroit appelé Mont des Oliviers, il envoya deux de ses disciples en disant « Allez à ce village d'en face. À l'entrée, vous trouverez un petit âne attaché, sur lequel personne ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si l'on vous demande « Pourquoi le détachez-vous ?», vous répondrez « Parce que le Seigneur en a besoin. » Les envoyés partirent et trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit. Alors qu'ils détachaient le petit âne, ses maîtres leur demandèrent « Pourquoi détachez-vous l'âne ?» Ils répondirent « Parce que le Seigneur en a besoin. » Ils amenèrent l'âne auprès de Jésus, jetèrent leur manteau dessus et y firent monter Jésus. À mesure que Jésus avançait, les gens étendaient leur manteau sur le chemin. Alors que déjà Jésus approchait de la descente du Mont des Oliviers, toute la foule des disciples, remplie de joie, se mit à louer Dieu à pleine voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Et ils disaient « Béni soit celui qui vient, le roi, au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire au plus haut des cieux. » Quelques pharisiens qui se trouvaient dans la foule dirent à Jésus « Maître, réprimande tes disciples. » Mais il prit la parole en disant « Je vous le dis, si eux se taisent, les pierres crieront.
Jacques Neuviart, je rappelle que vous êtes conseiller éditorial de Prions en Église. Vous avez l'habitude de scruter les Écritures. Alors, il faut resituer le contexte de cette scène. Juste avant, Luc nous dit que Jésus est à Jéricho. Il est allé chez Zachée, un collecteur d'impôts.
Oui, Jésus est à proximité de Jérusalem. Immédiatement avant, il a rencontré Zachée à Jéricho. Mais peut-être on peut se souvenir que depuis le milieu de l'évangile de Luc, au chapitre 9, et là on est au chapitre 18, dès le chapitre 9, verset 51, il nous a été dit que Jésus littéralement durcit son front pour monter vers Jérusalem, en annonçant que Jérusalem est la ville qui tue et lapide les prophètes et ceux qui lui sont envoyés.
Oui, il a dit ça à ses amis, il les avertit.
Oui, il annonce sa passion, qu'il doit souffrir à Jérusalem, mourir brutalement et ressusciter d'entre les morts. Ce qui, pour ses auditeurs, quand même, est profondément énigmatique. Alors Jésus monte vers sa passion. Effectivement, il passe à Jéricho. C'est à 30 kilomètres de Jérusalem, à peu près, le long de la vallée du Jourdain, pas très loin de la mer Morte. Et on est dans le désert de Judée. Donc à Jéricho, Jésus est allé manger chez Zachée, ce qui est très étonnant parce que Zachée c'est un collabo tout à fait. Un collecteur d'impôts, ce qui veut dire qu'il pactisait avec les Romains, il taillait l'impôt pour eux et aussi pour lui. C'est ce que faisaient souvent les collecteurs d'impôts. Et quand Jésus s'arrête pour manger chez lui, tous ceux qui accompagnent Jésus disent « Mais il fait quoi lui exactement ? Il sait avec qui il va manger ?» Et Jésus dit « Oui, je suis pas venu pour les bien portants et les justes, je suis venu pour les malades et les pécheurs. » Et chez Zachée, il y a une joie immense à la rencontre de Jésus.
Et donc, là, juste après cet épisode, Luc nous dit qu'il part en avant pour monter à Jérusalem. En avant.
Voilà, Luc nous fait comprendre ce qu'il y a de dramatique au fond, le courage de Jésus, mais qui s'avance seul. Et d'ailleurs, au moment où il sera au cœur de sa passion, tous ses amis seront éloignés. Il restera quelques femmes qui seront assez proches et très proches au moment de la croix. Mais voilà, Jésus part en avant et c'est le projet de Dieu. Jésus est pas un va-t-en-guerre du tout, mais il est possédé en quelque sorte de l'intérieur par cette passion du royaume de Dieu. Il est habité tout entier par la réalité de Dieu, lui qui est fils.
Et il veut partager ça à tous les hommes.
Voilà. Et donc, aller jusqu'à Jérusalem pour que le cœur de la ville sainte soit touché aussi. Il part pas pour aller se faire crucifier, il part pour que Jérusalem accueille le message et en quelque sorte soit touché, guéri de tout un culte encombré et qui finalement laisse les pauvres pour compte.
Il faut rappeler que dans la Bible, Jérusalem, c'est vraiment la ville sainte, hein, symbolisée par le temple. Hein.
Oui, c'est la ville royale, c'est là qu'habite le roi. Et depuis qu'on n'a plus de roi, mais il y a quand même le pouvoir romain. Et autour du pouvoir romain, il y a les grands prêtres, les scribes, etc. C'est là qu'on vient en pèlerinage 3 fois par an. On monte vers Jérusalem. Jérusalem est à 850 mètres d'altitude, à la frange entre tous les vents d'ouest qui viennent de la mer à 50 kilomètres de là et le désert, parce que les hauteurs arrêtent en quelque sorte les nuages et c'est à la frange entre les deux.
RCF. Enfin une bonne nouvelle.
Jacques Neuviard, Luc nous dit que Jésus approcha de Bethphagée et de Béthanie, près de l'endroit appelé Mont des Oliviers. Vous connaissez bien les lieux, donc c'est tout près de Jérusalem.
Le Mont des Oliviers, c'est dans Jérusalem. Jérusalem est en vallée et colline, et quand on est au temple, par exemple, on voit le Mont des Oliviers, c'est la colline qui est en face, c'est tout proche. Mais il y avait des connotations à l'époque. Dans le désert de Judée, il y a beaucoup de grottes. Et plus d'une fois, il y a eu des messies, des gens qui prenaient le soulèvement populaire contre les Romains. Et donc, voilà, le Mont des Oliviers, c'était le lieu éventuellement du rendez-vous de ceux qui venaient du désert pour un soulèvement contre les Romains.
Et ils attendaient un messie qui allait soulever les foules pour chasser l'occupant romain.
Dans la Bible, justement, on attend un messie royal. Et on a vite fait d'avoir des idées de force avec, dans la pensée populaire, eh bien le Messie doit chasser les Romains. Et Jésus ouvre une autre voie, un Messie très doux, compatissant, qui pardonne, qui guérit, qui est une image infiniment proche de Dieu qui déroute les gens.
Jésus envoya 2 de ses disciples en disant « Allez à ce village d'en face. À l'entrée, vous trouverez un petit âne attaché sur lequel personne ne s'est encore assis. Détachez-le. « Amenez-le. Si l'on vous demande pourquoi le détachez-vous, vous répondrez « Parce que le Seigneur en a besoin. » Jésus envoie 2 disciples. On a vu au chapitre 10 dans Luc qu'il envoyait déjà des disciples en mission 2 par 2. Et alors là, 2 disciples partent trouver cet âne. Drôle d'histoire.
C'est vrai qu'il les envoie 2 par 2. Et 2, c'est pour attester un témoignage. Donc, il y a toujours une force à 2 par 2. Et il les envoie 2 au village qui est en face. Et ils doivent prendre le petit ânon. Alors, c'est énigmatique. Parce que finalement, on est autant, vous l'avez rappelé tout à l'heure, autant des chars romains. Alors, qu'est-ce qu'un homme monté sur un petit ânon? Et en plus, oserait-on monter sur un ânon? Un ânon, ça vous vient à la taille quand vous êtes de taille adulte.
Mais, c'est ce que je me suis dit, on peut presque être debout et l'âne sous...
Voilà, mais alors, dans la pensée biblique, un ânon qui n'a jamais été monté, c'est une terre vierge. C'est-à-dire, pour le Seigneur, on prend ce qui n'a jamais servi, ce qui n'a jamais été assujetti au travail. C'est pas un animal
de force.
Il y a l'idée que c'est pour le Seigneur, c'est une écriture nouvelle sur une terre vierge. Et en même temps, vous direz, le Seigneur en a besoin. Et c'est énigmatique. Alors le mot Seigneur, en grec, Kyrios, peut vouloir dire monsieur, monsieur avec révérence, le notre Seigneur, comme on aurait dit au Moyen-Âge, ou le Seigneur de la foi. Donc là, on voit s'ouvrir une brèche, il y a un projet de Dieu avec ça. Alors eux transmettent le message, mais qu'est-ce que tout le monde en comprend? Il faut du temps pour comprendre que le Seigneur a besoin d'un anon. Pourquoi donc?
Jacques Neuviard, nous regardons avec vous l'évangile de ce dimanche en Luc, chapitre 19, versets 28 à 40. Jésus monte à Jérusalem avec ses disciples et il demande à deux d'entre eux de lui apporter un petit âne. Alors le texte dit « Les envoyés partirent et trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit. » Alors qu'ils détachaient le petit âne, ses maîtres leur demandèrent « Pourquoi détachez-vous l'âne ?» Ils répondirent « Parce que le Seigneur en a besoin. » Quand on lit ce passage, on se dit « Mais il y a parfaite concordance entre ce qu'a dit Jésus et puis ce que les disciples trouvent. » C'est assez étonnant d'ailleurs. Qu'est-ce qu'a voulu dire Luc?
Il faut se laisser étonner. Alors Luc ne veut pas dire que Jésus est un super magicien, mais Luc veut montrer que la parole de Jésus est en adhésion totale avec le projet de Dieu. Et que lorsqu'il dit cette parole aux disciples, bien c'est une parole en adhésion total avec le projet de Dieu. Donc Luc n'insiste pas tant sur la préscience de Jésus, car les capacités supérieures de divination, mais plutôt sur cette adhésion totale de Jésus et de tous au projet qui est le projet de Dieu.
Les disciples amenèrent l'âne auprès de Jésus, jetèrent leur manteau dessus et ils firent monter Jésus. Il va être question de manteau à plusieurs reprises. Le vêtement, là encore, ça a une signification particulière?
Alors, dans la mémoire biblique, il y a plusieurs passages où quand on acclamait le roi, alors on l'acclamait et en même temps, on jetait éventuellement des palmes, parce que c'est royal, sur la route, et aussi des vêtements. Alors, on a vu comme ça que le roi Jéhu, un jour, fut acclamé de cette façon. Quand Salomon est choisi comme roi, il est également acclamé de cette façon. C'est en même temps un geste très populaire. Qu'est-ce qu'on peut donner? On ne donne que ce qu'on a. Et qu'est-ce qu'a l'homme de ce temps-là? Il a tout juste son manteau. Et c'est pas un manteau qui venait de chez Cardin ou ailleurs. Voilà, c'est un manteau très simple. Et c'est ça qu'on donne. Et on le jette sur la route pour en faire un tapis d'honneur pour ce roi des pauvres. Et alors les foules sont en émerveillement. C'est le roi des pauvres. Le roi de qui? Le roi divin? On ne sait pas. Mais le roi des pauvres, il éveille une espérance folle. Et alors voilà, il reste ambiguïté. On attend quand même un roi qui libère Israël. Qu'est-ce qu'attendent exactement les foules? En tout cas, elles sont heureuses de cette arrivée de Jésus qui est à hauteur d'homme.
À mesure que Jésus avançait, nous dit Luc, les gens étendaient leurs manteaux sur le chemin. Donc il était question des disciples et puis maintenant on parle des gens qui se joignent aux disciples, donc c'est monsieur et madame tout le monde, sûrement ceux qui ont entendu parler de Jésus, qui l'ont vu guérir, c'est une sorte de liesse populaire, on pourrait dire ça?
Luc aime les foules, il aime les pauvres, il aime les petits, il aime aussi les pécheurs, il fait aussi grand cas, ce qui mérite d'être noté à l'époque, grand cas de la présence des femmes. Donc Luc est toujours dans ce qu'aujourd'hui on appellerait un peu les périphéries finalement, tous ceux qui à l'époque étaient plutôt un petit peu en second rang, mais Luc leur ouvre la porte. Et donc là, Jérusalem, eh bien, sont les foules, sont les petits, les pauvres, tous ceux qui ne peuvent rien attendre de la religion en place, rien attendre du pouvoir en place, tout le contraire, des impôts lourds. Et Jésus éveille l'espérance pour ces petits et ces pauvres.
Vous parliez des petits et des pauvres. Il y a un petit air de Noël dans le passage là que je vais lire maintenant, et ça fait penser aux bergers, hein, les pauvres justement, qui sont les premiers avertis de la naissance de Jésus. « Béni soit celui qui vient, le roi, au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire au plus haut des cieux. » Il y a une petite tonalité de la nativité là.
Il y a une petite tonalité de Noël, effectivement, mais il y a beaucoup de choses dans ce verset. toute la foule des disciples remplie de joie. Alors la joie chez Luc est très importante. On la rencontre de A à Z dans l'évangile, mais elle signale toujours les moments où le ciel et la terre se touchent, où il y a la présence de Dieu.
Et ça veut dire quoi justement, ciel et terre se rencontrent, à des auditeurs là qui ne verraient pas forcément de quoi il s'agit?
Alors ça, c'est des expressions comme « je les aime », c'est-à-dire que le bonheur de Dieu touche la terre et c'est extraordinaire. Et donc quand les petits, en quelque sorte, on pourrait dire, voient s'ouvrir le ciel, si vous voulez, c'est la bonté de Dieu qui leur arrive. La joie chez Luc signale toujours la présence de Dieu et ils se mettent à louer Dieu. Et louer Dieu dans l'évangile de Luc, c'est très important et c'est la réaction naturelle quand on voit les miracles que Jésus fait. Eh bien, les foules ont été touchées par ces miracles et elles louent Dieu de tous les miracles qu'elles ont vus.
La foule acclame Jésus parce qu'il a fait des miracles. Il y a une sorte de paradoxe parce que Jésus, comme vous l'avez dit au début de cet entretien, il va aller vers la croix. Jésus va se laisser faire avec un procès inique. Et donc, il y aura un décalage entre cette foule qui acclame et puis Jésus.
Oui, vous évoquez la croix, mais les foules sont tout entières remplies de ce que représente comme espérance la présence de Jésus. Après, jusqu'où iront-elles? C'est vrai qu'au mur de Jérusalem, tout à coup, les grands prêtres, les scribes vont monter un petit peu la foule contre Jésus. On a vite fait de retourner une foule. Et tout ce qui se passe est à la frange, voyez, entre l'émerveillement par rapport à Dieu et aussi la capacité de le perdre de vue instantanément. Et tout se joue dans cet instant. Mais les pharisiens veulent faire taire. Ils ne supportent pas justement une reconnaissance en Jésus de l'œuvre magnifique de Dieu.
Jacques Neuviard, nous regardons avec vous cet évangile des rameaux. Hein, c'est le jour où on célèbre Jésus qui rentre à Jérusalem. C'est dans Luc. À la fin, Jésus dit aux pharisiens qui ont dit « mais il faut qu'ils se taisent, oui, ces gens qui t'accompagnent ». Et il dit « je vous le dis, si eux se taisent, les pierres crieront ». Comment comprendre cette parole?
Alors c'est extrêmement fort. Si on fait taire la foule, eh bien alors les pierres du chemin crieront. Les pierres du chemin, mais c'est une image très forte. On ne peut pas faire taire. Et il y a aussi une note religieuse très très forte, c'est que normalement les prêtres de l'intérieur du temple devaient accueillir le pèlerin en disant « Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient ». Et ce sont les foules qui sont en train d'arriver qui le disent à Jésus. Il n'y a rien qui vient du temple et de la ville, il y a l'appel au silence.
Ça veut dire que ceux qui sont un peu les maîtres en religion, eux se taisent.
Ils se taisent alors qu'ils devraient parler et dire « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Et là, ils auraient toute raison de le dire puisque c'est Jésus qui vient par excellence au nom du Seigneur. Et donc, à la fois, ce sont les pierres du chemin, mais ce sont aussi les pierres du temple. Et si vous, les grands prêtres, vous vous taisez, eh bien, ce sont les pierres du temple qui devront crier. Mais ça, on peut pas le faire taire.
Oui, d'ailleurs, Jésus, à plusieurs reprises, regretté que le cœur de Jérusalem, le temple, ceux qui habitent, les prêtres, ne voient pas ce qui est en train d'arriver.
Eh ben, c'est aussi dans l'évangile de Luc, je crois que c'est du côté du chapitre 13. Jésus regarde Jérusalem et pleure sur Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem, toi qui tuais la pile des prophètes, ceux qui te sont envoyés, combien de fois j'ai voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble sa couvée et vous n'avez pas voulu. Il y a ce mystère, pourquoi on refuse avec Jésus ce qui vient de Dieu et qui viendrait pour guérir l'homme, pour le diviniser, le sanctifier, voyez, pour son bonheur.
Quand vous dites pour le diviniser, ça veut dire quoi?
Ben je cite Irénée de Lyon qui, au IIe siècle, disait « Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu ». C'est-à-dire, le projet de Dieu, c'est que nous autres, les humains, puissions laisser rayonner la présence divine qui est en nous aussi et le laisser rayonner pleinement. Et Irénée de Lyon le disait au IIe siècle.
Enfin une bonne nouvelle, Béatrice Saltner.
Jacques Neuviard, nous avons pris le temps de regarder de près cet évangile de dimanche dit des rameaux. En quoi ce texte qui nous parle donc d'une marche de Jésus qui arrive à Jérusalem, qui est acclamé, les gens mettent les manteaux pour que l'âne passe, en quoi cette histoire, qui est une construction théologique aussi, nous rejoint aujourd'hui?
Alors je crois qu'on est touché sur le lieu où on a tous besoin d'espérance. On est dans un monde qui est souvent malmené de tous les côtés. Ici, en France et dans les pays voisins, on vit souvent dans des inquiétudes profondes qui s'expriment quelquefois de façon vive. Y a-t-il une source d'espérance dans le monde comme il va? Et ce texte nous dit, suivez Jésus. Oui, mais Jésus, s'il est fils de Dieu, il est hors de portée. Non. Il arrive à hauteur d'homme, il est monté sur un ânon, le petit d'une ânesse, donc à hauteur d'homme, et il révèle Dieu dans des gestes de proximité. Et ça, c'est très fort, ce sont nos images de Dieu qui sont bouleversées. On imagine souvent que Dieu sur les chemins de cime, et il y prend les chemins creux des hommes. On dit souvent un Dieu guerrier, jaloux, etc. Il se révèle dans l'humilité absolue de Jésus.
Et sur un petit âne, au moment de la Passion, il sera question d'un autre animal aussi humble, l'agneau. Deux animaux qui incarnent la vulnérabilité. C'est intéressant parce que ceux qui écrivent les évangiles utilisent des images, des métaphores pour nous parler de choses très profondes.
Et dans ces métaphores, vous avez mentionné le petit âne, donc l'ânon et l'agneau. Ce sont des petits. Il y a aussi la notion de filialité. Un ânon, c'est entre guillemets le fils, le petit d'une ânesse. L'agneau, de la brebis. Et donc, ces images-là sont appelées à pétrir en nous aussi un sentiment de filialité à l'égard de Dieu. Découvrir que Jésus est dans la filialité à l'égard de Dieu, mais que nous, là, dans ce texte, nous sommes pris dans cette même dimension. Qui on est pour Dieu? On n'est pas des ennemis. Surtout pas, on n'est pas des étrangers, oui mais je suis pécheur, oui mais je suis pas en règle, etc. On est aimé de Dieu et introduit dans une filialité, et une filialité, comme dit l'évangile de Jean, que personne ne pourra nous ravir.
Jacques Neuviard, comment rentrer dans la joie de l'acclamation des rameaux? Parce qu'on peut se dire, c'est comme le jour de Pâques, alléluia, alléluia, mais quand on n'est pas là-dedans, ça peut nous paraître très étranger. Comment rentrer dans la louange, ce qu'on appelle la louange, donc le remerciement, la joie de que Dieu existe?
J'ai envie de dire, on peut se mêler à la foule et se laisser étonner, surprendre. Qui donc elles acclament? Et puis, petit à petit, on se déride aussi de nos rides intérieures et on peut entrer dans ce mouvement. Et alors, vous l'avez souligné plusieurs fois, Jésus va vers sa passion. Donc, quand on fête les rameaux, on est en direction de Pâques et il y a toute la semaine sainte qui est très lourde de sens. Jésus va laver les pieds de ses disciples, donc un geste d'humilité totale. Il est à ras de terre et ensuite il sera le grain de blé jeté en terre et qui meurt pour porter fruit. Et en Jésus, Dieu va jusqu'à cette profondeur des incompréhensions des hommes pour guérir le cœur de l'homme. Et il y a après tout le samedi saint, ou un jour de grand silence, un grand silence où on ne sait pas ce qui va advenir. Jusqu'au petit matin de Pâques, on entend une joyeuse rumeur. Et il faut du temps dans le cœur de l'homme pour que cette belle rumeur de Dieu vienne enchanter notre vie. Les rameaux précèdent cette semaine sainte qui sera le chemin aussi des profondeurs pour naître comme au printemps de Dieu, si vous me permettez cette expression poétique. Enfin,
un Dieu aussi humble, un roi aussi vulnérable, ça décoiffe toutes les idées que nous pouvons avoir, même si nous sommes très loin, justement, quand nous sommes très loin de l'Église et que nous pouvons imaginer que Dieu est inatteignable.
Vous l'avez rappelé, je suis conseiller éditorial appris en Église, je suis prêtre, je suis religieux, je me sens complètement appelé, moi, à réviser en permanence ma compréhension de Dieu. Et le texte qu'on médite aujourd'hui est un texte qui m'appelle, moi aussi, en profondeur, pour me laisser toucher, justement, par cette humilité de Dieu et ce don total qu'il fait. On est tous appelés à entendre ce texte comme une bonne nouvelle qui va venir débusquer en nous, justement, une autre image de Dieu, une image de Dieu infiniment proche, alors qu'on a des images de Dieu souvent aux antipodes, un Dieu puissant, très fort, etc. La semaine sainte, c'est la semaine de l'humilité de Dieu. Et c'est une bonne nouvelle qui nous guérit, je pense, en profondeur. Mais il faut un peu de temps.
Grand merci à vous, Jacques Neuviard. Pour ceux et celles qui désirent retrouver ce texte, nous l'avons lu dans Luc, chapitre 19, versets 28 à 40. Merci à Pierre-Henri Paget à la technique.